Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Pour que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
Les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est des personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet fascinant qui nous permet de comprendre comment notre environnement peut influencer l'expression de nos gènes, l'épigénétique. Waddington, généticien britannique, définit en 1942 l'épigénétique comme l'étude de processus selon lesquels le génotype donne lieu au phénotype. Le génotype étant l'ensemble des caractères génétiques d'un être vivant et le phénotype l'ensemble des caractères apparents. Aujourd'hui, on peut définir l'épigénétique plus simplement comme l'étude de l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. L'alimentation fait partie de notre environnement. Non seulement elle a une incidence sur nos gènes, mais nos gènes ont également un impact sur notre alimentation. Cela pose alors de multiples questions. Nos gènes dictent-ils notre santé ? Existe-t-il un déterminisme ? Ou au contraire, est-ce que l'alimentation influence notre santé, voire même nos gènes ? Par ailleurs, la génétique a-t-elle une influence sur notre goût des choses, mais aussi sur nos comportements alimentaires ? Cela pose insidieusement la question de l'obésité. Celle-ci se transmet-elle ? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Lavelle. Christophe est chercheur en biophysique et en épigénétique au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Spécialiste de l'alimentation, il enseigne l'anthropologie, la biologie et la physico-chimie culinaire au sein de nombreuses universités. Il est également l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont par exemple « Toute la chimie qu'il faut savoir pour devenir un chef », ou encore « De l'assiette au cerveau, la cuisine neurogastronomique », ou enfin « Je mange donc je suis », petit dictionnaire curieux de l'alimentation. Il est aussi cuisinier et à ce titre formateur. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Est-ce que tu peux déjà te présenter ?
Oui, bah t'as dit l'essentiel. Après, voilà, moi j'ai un parcours assez classique d'un point de vue universitaire, enfin classique très interdisciplinaire par contre. C'est-à-dire que j'ai commencé par la physique avec un master de physique et puis en fait ce qui s'appelait un magistère, c'est-à-dire que j'ai aussi un diplôme d'ingénieur parce que j'avais envie de voir le côté un peu plus terrain à ce moment-là. Donc j'ai quand même travaillé 6 mois dans une centrale nucléaire pour mettre au point les circuits de secours en cas de surchauffe. Évidemment, je n'étais qu'un tout petit maillon stagiaire dans la chaîne, donc ça va. Et puis en sortie de physique, je me suis dit que c'est une espèce de boulimie qui a toujours été présente et je me suis dit que je connaissais rien aux vivants et donc il fallait que je fasse une thèse de bio. Donc j'ai fait une thèse de bio et en sortant de la thèse de bio, je me suis dit que c'était bien le vivant, mais en fait c'était important de savoir le modéliser. Donc je suis parti dans des post-docs plutôt de modélisation, donc au laboratoire physique théorique de la matière complexe, LPTMC, puis à l'IHES, donc l'Institut des hautes études scientifiques. Et tout ça en restant en fait à cette frontière entre physique et biologie. Et je me suis dit qu'il y a une bonne frontière, c'est la radiobiologie, c'est comment les rayonnements influencent le vivant. Donc je suis parti au CEA. Et puis du CEA, je me suis dit, le rayonnement, ça génère des cancers. Donc j'ai eu envie de m'intéresser à la cancéro. Donc je suis parti à l'Institut Curie et à l'Institut Gustave Roussy. Et puis voilà, ça nous amène vers Bac plus 15 ou 16. Et c'est l'âge normal, en fait, on va dire, pour être recruté au CNRS, ouais. À peu près ça la moyenne.
Okay.
Et donc je suis rentré au CNRS en département de chimie. Voilà, donc c'était ni de la physique ni de la bio, mais c'est la chimie qui m'a pris. Et puis après, j'ai installé mon laboratoire au muséum où je suis actuellement depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc Muséum National Histoire Naturelle. Ah, donc dans le Jardin des Plantes, à Paris, et je m'y plais plutôt bien, donc je pense y rester là encore pendant le temps qu'il faudra. Je sais pas quand arrivera la retraite dans ces métiers-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le muséum, c'est un environnement qui est extrêmement, et comme tu le mentionnais, tu vois, quand on est sur des sujets qui sont à la fois sciences humaines, sciences dures, quand on s'intéresse à l'anthropologie, la sociologie, mais aussi la physico-chimie, le muséum est un super endroit pour ça.
Et là, tu ne nous as pas cité le mot épigénétique. À partir de quand tu t'es intéressé à cette question-là et pourquoi tu t'es intéressé à cette question-là ?
Mais l'épigénétique, si ça a été présent, bah, en fait, plus dès la thèse. Donc, ça fait une vingtaine d'années maintenant quand même, oui. Parce que, en fait, quand on aborde, comme tu l'as dit, effectivement, c'était la définition de Waddington, hein, c'est comment on passe du génotype au phénotype. Si je veux faire une image un peu vulgarisée, le génotype, c'est un dictionnaire. Et puis, le phénotype, c'est un livre. Donc, il y a le phénotype à l'ombre des jeux de filles en fleurs, et il y a le phénotype, bref, les livres qu'on veut. Je pourrais. Et à partir de là, ça veut dire que cet ADN, il est capable d'exprimer tout, comme le dictionnaire, il y a absolument tous les mots nécessaires, mais il va falloir trouver une manière d'organiser ces mots pour en faire une histoire cohérente. Et là, on tombe tout de suite dans la physique. Parce que c'est de l'organisation tridimensionnelle. C'est très concrètement, dans chacune de nos cellules, on a un mètre d'ADN. Enfin, un à deux mètres, suivant si la cellule elle est en G1 ou en G2. Tout ça, c'est du jargon. Mais bref, on va dire un mètre d'ADN. Sur ce mètre d'ADN, il y a nos 30 000 gènes qui sont absolument présents dans toutes nos cellules, c'est-à-dire dans nos 10 000 milliards de cellules. Donc, ma cellule de foie, ma cellule de pancréas, mon neurone et ma cellule de l'épithélial intestinal, etc., elles ont exactement le même ADN et pourtant elles font des choses très différentes. Si je veux me raccrocher à l'alimentation, c'est dans mon pancréas que je vais fabriquer l'insuline qui me permet de gérer le sucre, c'est dans mon intestin que je vais fabriquer la lactase qui me permet de digérer le lactose, etc. Et ça n'existe pas, ça ne se produit pas dans mon cerveau. Donc, ça veut dire que c'est la physique qui organise l'ADN. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, en tant que on a besoin de physiciens pour faire de la bio parce que l'ADN, c'est un fil de 2 nanomètres de large. Et puis, il se tord, il se courbe, il s'ouvre, il fait des nœuds. Et ça, c'est vraiment de la physique fondamentale qui est exactement la même que si je veux étudier ce qui se passe quand j'en mêle un filet de pêche, quoi. Et donc, c'est en tant que physicien que j'ai abordé ces sujets-là pour comprendre effectivement comment l'ADN se structure dans les noyaux et pourquoi. Quels sont les mécanismes qui font qu'ils ne se structurent pas de la même manière dans mon foie, dans mon cerveau et sur ma peau, quoi.
Okay.
Et à partir de là, on déroule le fil, sans faire de mauvaises allégories, et ça nous emmène vers ce que tu mentionnais, c'est-à-dire que finalement, non seulement il y a une structuration de l'organisme lors du développement, qui fait que quand on part d'une cellule, les deux gamètes qui fusionnent et qui font l'œuf primordial, elles vont au fur et à mesure faire de la différenciation et fabriquer les quelques 300 tissus qui nous compose. Mais après, une fois que c'est structuré et qu'on est un organisme viable adulte, tous ces mécanismes d'interaction en fait continuent de se produire avec l'environnement. Et l'alimentation, comme tu le mentionnais à juste titre, est une partie très importante de cet environnement. Et donc de se dire en quoi ce que je mange influence finalement mon métabolisme, c'est une question d'épigénétique. Mmh. Et ça nous emmène vers le cancer. C'est pour ça aussi que je suis parti assez vite vers le cancer et vers ce rôle entre alimentation et cancer, parce que quand on nous raconte que manger trop de viande rouge favorise le cancer du côlon, on se dit qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le mécanisme ? Ça peut pas être génétique parce qu'il n'y a pas d'agent mutagène dans la viande rouge. Viande rouge grillée, il pourrait y en avoir sur certains composés, mais bref. Donc, il se passe quelque chose qui n'est pas une altération des gènes, mais qui est une altération de l'expression des gènes. Et ça, ça passe par l'inflammation, ça passe par tout un tas de chaînes métaboliques qui fait qu'on arrive à comprendre qu'il peut y avoir effectivement des déviances cellulaires dues à certaines conditions alimentaires très particulières.
Ok, tu nous as dit 1000 choses, là. on va essayer de décortiquer tout ça.
Ouais.
Ma première question que je poserais, c'est peut-être un tout petit peu en amont de l'alimentation. C'est quoi les facteurs qui font que nos gènes vont être influencés au cours de notre vie, voire vont changer au cours de notre vie ?
Alors, il y a un organisme est très poreux vis-à-vis de son environnement, parfois de manière extrêmement spectaculaire. Il y a des choses qui sont programmées, des choses qui ne sont pas programmées en tant que telles, mais qui sont prêtes à réagir en fonction d'un changement environnemental. On va prendre des exemples qui ne sont pas forcément humains, parce que les exemples les plus spectaculaires, on va les trouver dans le vivant, et ça va nous rapprocher de l'humain. L'humain étant dans le vivant, bien sûr, mais un vivant un peu particulier, ne serait-ce qu'on est là pour en parler. L'exemple le plus flagrant, c'est celui du papillon. qu'on cite toujours en épigénétique, parce que imaginons qu'on découvre tout à coup le monde, c'est-à-dire que j'ai un filet comme ça, un filet à papillon, et on me donne une chenille, je n'y connais rien, je ne sais pas ce que c'est, je vois un animal qui est une chenille, qui marche avec ses je ne sais pas combien de pattes, et tout va bien. Et je reviens 3 semaines plus tard, et dans le même filet, je vois un papillon. Et là, je ne comprends pas, mais ce n'est pas le même animal, quoi. Et il faut avoir étudié la biologie et comprendre la biologie pour en fait se convaincre que si, c'est complètement le même animal, mais à 2 stades de développement différents. Donc il y a une grosse phase de changement épigénétique qui fait que l'animal s'enferme dans sa chrysalide, tous les gènes changent l'expression, les organes se modifient, et paf, ce qui sort après, c'est toujours le même génome, la bestiole qui dans chacune de ces cellules a exactement le même ADN, puisque c'est celui de cette chenille et papillon de départ, mais sa morphologie a totalement évolué. Et ça, c'est une programmation qui est ancrée dans ce qu'on appelle l'ontogénèse du papillon. Mais c'est déjà assez spectaculaire, c'est juste une modification épigénétique. Après, on se dit, mais alors, si cette modification-là, elle est programmée, mais ce qu'elle serait possible avec en fait un changement environnemental. Est-ce qu'un changement environnemental pourrait déclencher ce type de modification? Et là, on part sur un autre exemple assez célèbre, qui est l'axolote, qui est une espèce de petite salamandre, qui était, on en avait il y a un peu plus de 2 siècles, justement, il y a une qui avait été récupérée dans le vivarium du muséum. Et on a un peu le scénario que je viens de décrire, c'est-à-dire que le responsable du vivarium avait mis ses salamandres dans son vivarium, et puis quelques semaines plus tard, il voit, donc c'était vraiment, en fait, c'était un stade larvaire, donc la bestiole vivait dans l'eau. Puis quelques semaines plus tard, il voit une espèce de triton qui marche comme ça, là. Il y a eu une bête qui est rentrée dans mon aquarium, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à comprendre que c'était la même bestiole, l'axolote. Et en fait, c'est une bestiole qui est amphibienne, donc vit dans l'eau, mais si par exemple les conditions environnementales assèchent son environnement, à ce moment-là, déclenchement d'une modification épigénétique, et elle passe uniquement sous cette condition-là, du stade larvaire au stade adulte. Et le stade adulte est un stade dans lequel elle va tronquer ses branchies pour des poumons.
Incroyable.
Et donc, c'est le même génome, une fois de plus. C'est le même animal, mais il n'a rien à voir. Il y en a un qui vit dans l'eau, l'autre qui vit dans l'air. Enfin, dans l'air, sur le sol, quoi. Et là, on a vraiment... C'est comme le papillon, sauf que là, c'est pas programmé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de changement environnemental, si l'eau est toujours présente, la bestiole restera à l'état amphibien. De toute sa vie. Il faut uniquement qu'il y ait un changement environnemental pour que tout à coup, ça déclenche cette modification morphologique. Donc, on a conscience que l'environnement peut totalement changer un organisme.
Ouais.
Et là, on arrive au dernier volet, on se dit, mais dans cet environnement, est-ce que l'alimentation peut avoir ce rôle? Et cette fois-ci, on passe par le 3e exemple célébrissime, qui est celui de l'abeille, qui est de se dire, bon, ben voilà, effectivement, je prends une ruche avec 1000 larves d'abeilles issues de la même ponte, donc elles sont jumelles, elles ont le même génome. Et dans ces 1000 larves, je les nourris au pollen, ça me fait 1000 ouvrières. Et puis, je vais en prendre une que je vais nourrir à la gelée royale. Et celle-là, en quelques jours, je vais voir des modifications phénoménales, juste en fonction du fait qu'au lieu de pollen, je les nourris à la gelée royale. Elle va se mettre à développer un abdomen énorme, elle va devenir féconde, et en quelques semaines, ça va devenir la reine. Et les 999 autres sont les restes ouvrières. Et donc, cette modification-là, elle est purement alimentaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on sait que dans cette gelée royale, il y a tout un tas d'agents chimiques qui vont en fait déclencher l'expression d'une enzyme, DNMT3, alors DNA, méthyltransférase 3, tout ça c'est du jargon, mais en fait c'est une enzyme qui est capitale justement pour structurer l'ADN dans le noyau des cellules. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette enzyme, elle, à toute seule, va modification des groupements méthyl sur l'ADN, qui va déclencher des modifications des nœuds qu'on fait avec l'ADN, de l'enroulement, et qui fait qu'il y a des gènes qui étaient jusqu'à présent et qui restent cachés chez les ouvrières, mais par contre qui vont tout à coup se débobiner et devenir accessibles à la machinerie cellulaire dans certaines cellules de cette future reine. Et ça va totalement changer sa morphologie. Et donc on se rend compte avec ce phénomène totalement spectaculaire qu'un aliment peut déclencher une cascade métabolique qui change totalement la morphologie. Alors, à l'échelle humaine, évidemment, c'est pas aussi spectaculaire, quoique...
Mais du coup, qu'est-ce qui, concrètement, va y avoir l'environnement qui va influencer notre alimentation, du coup?
Surtout notre alimentation.
Surtout notre alimentation,
ouais.
Okay.
Parce que, mine de rien, c'est des choses...
La pollution de l'air, ça ne va pas influencer.
Ça peut influencer, c'est-à-dire tout ce qui est pollution, et en fait, ça peut participer, de manière générale, à ce qu'on appelle un stress.
Ok.
Il peut y avoir tout un tas de conditions de stress, mais alors, en fait, il y a deux. Dans ce qui va nous influencer, il y a deux types de phénomènes. Il y a ce qui est moléculaire, ce qui est physique, c'est que je vais respirer quelque chose ou ingérer quelque chose, effectivement, où là, ça rentre dans mon métabolisme et ça peut avoir des tas d'effets. Bon. Et en même temps, ce qui est beaucoup plus difficile d'ailleurs à caractériser, c'est les facteurs psychologiques. Parce qu'effectivement, on a cette idée qui est difficile à valider, mais qui commence quand même à bien émerger, que le stress peut par exemple être un facteur pro-cancer.
Ouais.
On ne sait pas trop pourquoi. On a des indications, dire que quand on est stressé, même si c'est un facteur purement psychologique, ça déclenche des effets qui peuvent être métaboliques parce qu'il peut y avoir de l'inflammation, il peut y avoir beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas encore bien, qui sont beaucoup plus difficiles à décortiquer parce que, encore une fois, le psychique, c'est très difficile à décortiquer. Mais il y a des effets. Et sur l'aliment, c'est un effet prépondérant parce que, encore une fois, on mange grosso modo 3 fois par jour. C'est des quantités donc phénoménales de composés qu'on ingurgite. Et dans ces composés, et dans les milliers de composés qu'on ingurgite, statistiquement, il y en a qui ont des rôles bénéfiques ou non, justement, sur notre métabolisme. D'où toute cette sphère. Et ces milliers d'articles de recherche et ces dizaines qui sortent toutes les semaines sur soit justement des effets délétères de certains composés alimentaires ou soit au contraire des effets protecteurs d'autres composés alimentaires.
Du coup, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme génétique. Donc, si dans tes gènes, tu as des hypothèses qui vont faire que tu vas développer plus de maladies, ton alimentation peut éventuellement changer cela ?
Alors, y a malheureusement et forcément, enfin malheureusement, c'est comme ça, il y a des deux évidemment. Il faut bien faire la part des choses justement entre la génétique et l'épigénétique. La génétique, il y a un côté quand même un peu déterministe. C'est-à-dire qu'on va avoir, selon le génome dont on hérite, une susceptibilité à certaines pathologies qui peut être plus prononcée. Soit d'ailleurs.
Une prédisposition.
Soit d'ailleurs, on hérite directement d'une maladie donnée. Il y a des maladies qui sont génétiquement transmissibles. Soit on hérite d'une prédisposition. Et donc, il y a à la fois un caractère semi-déterministe parce qu'on est prédisposé, mais en même temps, effectivement, malgré cette prédisposition, on garde encore l'opportunité d'échapper à la pathologie. Ça correspond à deux grands domaines, d'ailleurs. Quand on parle de génétique nutritionnelle, justement, il y a d'un côté la nutrigénétique, de l'autre côté la nutrigénomique. Alors, ça peut paraître comme ça, ça paraît assez proche, mais en fait, c'est les deux directions complémentaires et opposées. La nutrigénétique, c'est vraiment l'étude qui consiste à essayer de comprendre en quoi notre génome, le génome dont on a hérité, influence en fait notre métabolisme, et donc notamment l'alimentation idéale qu'il faudrait que l'on ait. Quand on fait de la nutrigénétique, on essaie de comprendre en quoi les gènes dont on a hérité ont une influence sur notre métabolisme, et donc éventuellement c'est ce qui va nous orienter vers ce qu'on appelle la nutrition personnalisée. C'est-à-dire toi, en fonction de ton génome, il faut que tu manges ça, 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 et là tu vas être en pleine santé. Bon, ça c'est la nutrigénétique.
Ça existe déjà.
Ça ne veut pas dire que c'est hyper opérationnel, mais ça veut dire qu'on a déjà des indications, ce qu'on appelle des SNPs, c'est-à-dire des small nucleotide polymorphism, c'est-à-dire qu'on est capable d'analyser et faire des études de corrélation entre telle mutation et tel métabolisme. Et donc, on peut effectivement, comme ça, ajuster, en tout cas théoriquement, une alimentation à un patrimoine génétique.
Mmh.
Bon. Dans l'autre sens, ce qu'on appelle la nutrigénomique, c'est en quoi mon alimentation est capable d'influencer l'expression de mes gènes. Et c'est là où on est beaucoup plus dans la sphère qu'est-ce qu'il faut manger pour échapper au cancer, ou au contraire, qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour ne pas déclencher. Et donc là, c'est beaucoup plus l'épigénétique et de ce côté-là. C'est de se dire, je mange plein de tomates et je vais avoir moins de cancer de la prostate. Pourquoi ? Parce que dans la tomate, il y a plein de lycopène. Lycopène, c'est un antioxydant qui va avoir un rôle protecteur, etc. Ça, c'est de la nutrigénomique. Et donc, quand on conjugue les deux, effectivement, il y a à la fois donc une prédisposition qui vient de la nutrigénétique, et puis en même temps on peut y échapper si on comprend la nutrigénomique.
Ok, donc c'est rassurant quand même.
C'est rassurant bien sûr, parce que ça veut dire qu'on garde la main quand même en fonction de ce qu'on mange, sachant qu'il n'y a pas que le cancer. Alors souvent on se focalise sur le cancer parce que c'est quand même un tiers des cancers qui sont, l'estimation c'est qu'il y a un tiers des cancers qui sont sous dépendance directe d'une mauvaise alimentation. C'est-à-dire que si on comprenait toutes les clés, tous les mécanismes et qu'on changeait notre alimentation en conséquence, on éliminerait d'office un tiers des cancers.
C'est énorme.
C'est absolument énorme. C'est comme le tabac. Le tabac, c'est un tiers aussi. Et tout le reste, le dernier tiers, c'est tout le reste. La pollution, le stress, bref, tout ce qu'on peut imaginer. Perturbateurs endocriniens et autres, qui peuvent faire partie de l'alimentation aussi parfois quand même.
Oui, on va en parler.
Donc c'est énorme. Donc on a absolument besoin de comprendre ces mécanismes, de comprendre ce qu'il ne faut pas manger, de comprendre ce qu'il faut manger et de minimiser l'un et de maximiser l'autre, et tout en restant quand même dans une logique alimentaire qui reste aussi un tout petit peu agréable et conviviale et autre. Hein. Il ne s'agit pas de transformer l'alimentation en médecine, contrairement à certains adages.
Mais ce que tu disais, c'est que ce n'est pas que le cancer. C'est quoi les autres maladies? J'imagine qu'il y a le diabète.
Les maladies métaboliques, okay. Tout ce qu'on entend, effectivement, diabète, oui.
Est-ce que l'obésité en fait partie?
Oui, l'obésité en fait partie. Toutes les maladies coronariennes, hypertension et autres peuvent être sous influence aussi alimentaire, bien entendu. Très souvent, hein, quand on parle de malbouffe, c'est associé à toutes ces pathologies. La malbouffe, au sens très large du terme, soit parce que les hypercaloriques, soit parce que elle est beaucoup trop pauvre en nutriments, va déclencher des cascades qui peuvent souvent être cette cascade d'obésité, l'obésité étant elle-même un facteur déclencheur de cancer, parce que qui dit obésité dit tissu inflammatoire, qui dit tissu inflammatoire dit inflammation répétée dit modification du programme épigénétique et potentiellement cellules cancéreuses, effectivement.
Tu nous as parlé des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, notre alimentation, elle est très polluée par les pesticides qui sont eux-mêmes la première cause de perturbateurs endocriniens. Est-ce que ça va influencer ? Moi, j'entends souvent dire que les pesticides sont mutagènes et toxiques pour notre ADN. Donc là, ils viennent directement modifier notre génogène ?
Il y a les deux. Effectivement, c'est assez pernicieux parce que dans ces très nombreux composés et molécules qu'on trouve aujourd'hui dans notre environnement, effectivement, il y en a qui sont capables d'interagir directement avec l'ADN et d'entraîner des mutations, et d'autres plus subtilement qui vont entraîner des déprogrammations et reprogrammations cellulaires. Ceci étant, après, je suis pas du tout toxicologue, donc là, j'évite d'essayer de sortir de mon domaine d'expertise par déontologie. Je suis pas complètement au fait de tous les cahiers des charges pour les autorisations de mise sur le marché et autres. J'ose imaginer que des composés objectivement mutagènes sont quand même sévèrement régulés. Après, il faut faire la part des choses. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, quand on regarde les études épidémiologiques, c'est très très difficile de montrer un effet, par exemple, cancérigène d'un pesticide à l'échelle du consommateur. Très peu d'articles qui mettent ça en avant, ou en tout cas qui ne sont pas controversés par rapport à ça. C'est-à-dire que le consommateur est très loin dans la chaîne d'ingestion des pesticides, contrairement à l'agriculteur qui, lui, est en début de chaîne. Donc, il y a des études qui commencent à être relativement bien perçues et consensus, c'est beaucoup dire, mais en tout cas qui commence à se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler un consensus par rapport aux maladies professionnelles, c'est-à-dire des expositions professionnelles à des pesticides qui sont corrélées à des cancers, où on se dit que le lien de cause à effet est sans doute pas loin. On n'en est pas du tout là pour le consommateur. Ce qui veut dire très concrètement que, par exemple, je suis assez remonté contre certaines campagnes qui consistent à laisser entendre que consommer des fruits et légumes non bio, par exemple, serait mauvais pour la santé. On en a vu plusieurs fois, sans citer de marque, ce type de campagne.
Des ONG aussi, je pense à Génération Future qui a fait une campagne.
Des ONG, il y a aussi des producteurs, ou plutôt des coopératives, des magasins qui lancent sur ce thème-là en disant « Attention, mangez pas de pommes parce qu'il y a des pesticides dessus ». Ça, c'est un message complètement contre-productif d'un point de vue santé publique.
Okay.
Parce que la pomme, combien même elle est élevée, effectivement cultivée, de manière non bio, reste extrêmement bénéfique dans son apport en fibres, en nutriments et autres. Effectivement, il vaut mieux la laver avant de la consommer, soit voir l'éplucher si vraiment on est flippé par rapport à ça et qu'on a vraiment des doutes. Mais manger des pommes, c'est bon pour la santé, quelle que soit la pomme.
C'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on fait des formations auprès de nos restaurateurs et c'est parfois une question qui vient, notre environnement étant tellement contaminé aux pesticides, est-ce que j'ai intérêt à manger plus de fruits et légumes sachant qu'ils sont contaminés aux pesticides ? Est-ce que végétaliser, du coup, mon assiette a du sens? Et je ferais pas mieux de continuer à manger de la viande qui peut-être est moins...
Bon, ça a du sens, évidemment. Ne serait-ce que parce que justement, et ça, ça a été montré, bien laver ses légumes, ça enlève, alors, j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais c'est plus de 90% des éventuelles traces de pesticides, de toute façon. Ouais. Donc, et éplucher, c'est 100%.
Ok, mais t'as quand même quelques études qui sont hyper alarmistes. Je pense à une étude relativement récente, je pense qu'il y a 2 ans, de l'ANSES, il me semble, disant que notre alimentation est massivement contaminée et que les effets de ces pesticides sont quand même potentiellement problématiques.
Notre alimentation est contaminée, notre environnement au sens large
oui,
est massivement
l'air,
contaminé.
L'eau.
Ce qui est beaucoup plus pernicieux, et c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est toute la sphère des perturbateurs endocriniens. Pourquoi ? Parce que là, il n'y a pas d'effet de dose de la même. Enfin, ce sont des effets de dose qui sont beaucoup plus complexes.
D'accord.
C'est-à-dire que quand je prends une molécule qui va avoir un effet assez direct, mécanistique, que ça soit mutagène ou que ça soit sur mon épigénome, si c'est un effet de dose, c'est contrôlable. C'est-à-dire que si plus j'en ingère, plus l'effet est fort, tout va bien. Enfin, tout va bien. J'arrive à gérer ça. Perturbateur endocrinien, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses totalement paradoxales du fait qu'à petite dose, ça n'a pas d'effet, à grande dose, ça n'a pas d'effet, et au milieu, ça a un gros effet.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Donc, il y a des espèces de courbes de réponse à effet qui sont tout sauf linéaires.
La dose ne fait pas le poison.
La dose ne fait absolument pas le poison sur des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est très difficile d'anticiper l'effet que ça peut avoir. Et d'où aussi cette idée qu'effectivement, à des doses infimes, ça peut avoir des effets maximes.
Ah ouais.
Donc ça, voilà. Et encore une fois, on serait obligé, d'un point de vue idéal, de raisonner au cas par cas. Maintenant, il y a un espèce de... Effectivement, on peut partir sur l'idée qu'on ne peut pas comprendre au cas par cas. Donc, on part sur des idées plus de principes de précaution en disant il faut ingérer le moins possible de ces composés de synthèse. Et puis, comme ça, j'augmente mes chances d'échapper aux composés qui pourraient générer des problèmes.
D'autant que ces composés qui sont potentiellement mutagènes fait que si ça modifie notre ADN, on va transférer cet ADN modifié à nos enfants.
Ça dépend si ces mutations altèrent les gamètes ou non.
Ah.
Évidemment, on ne transmet que nos gamètes. Donc, si ces mutations, si je déclenche un mélanome, c'est parce que j'ai des mutations sur ma peau, ce n'est pas transmissible. Hein. Je ne vais pas transmettre ma peau à mes enfants. Par contre, si oui, dans ce que je mange ou la pollution, si ça altère mes gamètes, là, effectivement, je vais transmettre des mutations à mes enfants. Mais ça marche aussi pour l'épigénome, justement. Et c'est même, d'un point de vue stricto sensus, ce que représente vraiment l'épigénétique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de guéguerre sémantique dans l'épigénétique, en disant dans ma vie, là, si mon corps qui évolue, mon métabolisme qui évolue parce que j'ai mangé de la viande rouge plutôt que de manger des carottes, etc., ça c'est du développement, c'est de la réponse métabolique, c'est à peine de l'épigénétique, c'est juste une reprogrammation de mes cellules, mais dans mon organisme à moi. La vraie épigénétique, telle qu'on peut l'imaginer au sens de Waddington, c'est plutôt justement en termes de transmission de génération à génération.
Okay.
C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants à travers mes gamètes. Ça serait la vraie épigénétique. Et là, effectivement, on a mis du temps à le comprendre, du temps à l'analyser et à pouvoir mettre ça en évidence. Mais il y a une transmission à travers les gamètes dans laquelle l'alimentation a un rôle à jouer. Ça a été au départ vu plutôt sur des modèles animaux. Type des souris. C'est-à-dire que l'expérience la plus célèbre, ce qu'on appelle les souris agouties. Souris agouties, c'est des souris qui expriment une enzyme justement qui change la couleur du pelage. Donc il y a les souris jaunes et les souris noires. Elles ont le même phénotype, sauf qu'effectivement, elles n'ont pas la même expression de ce gène. Donc elles n'ont pas exactement le même phénotype. Il y a le pelage qui diffère. Et ce qui était intéressant, c'est que ce qui avait été observé, c'est que les souris qui avaient un pelage plutôt jaune, elles étaient aussi, avaient tendance à devenir obèses. Et à déclencher beaucoup plus facilement des cancers. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre effectivement, cette couleur du pelage et l'état de santé général. Ça veut dire qu'il y a toute une cascade métabolique qui dépassait la simple expression d'une enzyme. Quoi. Et ce qui avait été remarqué, c'est que les souris avec ce pelage jaune et obèse, etc., engendraient des souris avec un pelage jaune et qui étaient obèses, etc. Bon. Donc, soit, ça c'est de la transmission. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ces souris jaunes, obèses, cancéreuses, etc., si on les nourrissait avec une alimentation très riche en folate, elles donnaient naissance à des descendants dont une partie avait plutôt le pelage noir et échappait à l'obésité. Ah, ça veut dire que tout à coup, C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Bah,
tout n'est pas
si
déterminé.
Tout n'est pas déterminé. Si je suis une souris avec un pelage jaune et obèse, je peux aussi, en changeant mon alimentation, éviter de transmettre ça à mes descendants. Sachant que les descendants auront le même gène, mais ils ne l'exprimeront pas. Parce que c'est une modification purement épigénétique.
Ah ouais.
Et donc ça, déjà, ça montre effectivement la puissance, finalement, de l'alimentation. Et ce qui avait été aussi intéressant dans ces études, c'est qu'ils avaient montré que, et pour rebondir sur les perturbateurs endocriniens, c'est une des premières études qui a pu alerter sur le bisphénol A à l'époque, parce que l'ingestion de bisphénol dans ces souris-là, en fait, contrecarrait en fait les effets positifs du folate. C'est-à-dire, grosso modo, si on avait du bisphénol, en fait, on continuait à produire, même avec une alimentation riche en folate, on continuait à avoir uniquement des souris qui étaient obèses et cancéreuses, qui chopaient facilement des cancers, etc. Donc, on se rendait compte qu'il y avait plein de choses. Il y avait l'alimentation, il y avait les polluants chimiques de cette alimentation qui pouvaient avoir un rôle, etc. Donc ça, c'est la souris, soit. Et on a vu tout à l'heure l'abeille. Et à l'échelle humaine, les quelques études qui ont pu être mises en avant là-dessus, c'est toujours sur des études liées à des restrictions caloriques, parce que c'est le plus facile à analyser. C'est les fameuses périodes de famine, qui dans l'histoire ont été analysé et on a pu effectivement repérer dans la morphologie des descendants de personnes qui avaient subi des restrictions caloriques, on a pu voir des différences métaboliques et notamment une tendance à être un peu chétive, quoi. Alors, la première génération, ça s'explique. C'est-à-dire que si je suis une femme enceinte et que j'ai restriction calorique et que je donne naissance à un bébé prématuré, chétif, etc., on dit c'est juste un stress de mon environnement pendant la gestation et c'est de la. Il y a peut-être un tas de raisons métaboliques pour expliquer ça. Par contre, si l'enfant que j'ai eu, un peu chétif, dans sa vie, peut se nourrir parfaitement, correctement et a accès à tous les nutriments qu'il veut. Et puis, qu'en tant que femme, donne naissance à une fille ou un garçon qui lui-même va avoir ce même type de modification, être un peu chétif, fragile, etc. On dit, ça veut bien dire qu'en fait, ça dépasse le mode de vie. C'est quelque chose qui est transmis à travers les générations. Et c'est encore plus flagrant, finalement, parce que quand ça passe à travers le mâle, en l'occurrence. Parce que on dit, dire que moi, je donne ma gamète, et finalement, à travers, et ça, c'était vu aussi chez les souris, à travers le mâle, effectivement, peut passer le même type de modification. Donc là, c'est pas un stress environnemental, c'est vraiment la gamète qui est porteuse du stress qui a été subi par l'individu pendant sa vie. Heureusement, tout cela est réversible. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ces effets générationnels qu'on a vus, ces populations en Irlande, dans le milieu du 19e, famine, etc., une génération, pareil, désordre métabolique, deuxième génération, désordre métabolique, mais un peu moins, troisième génération, et au fur et à mesure, ça se dilue, et tout rentre dans l'ordre. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des, une fois de plus, à travers les gamètes, on transmet quand même pas mal de choses.
Et du coup, à l'inverse, l'obésité, pareil.
Et l'obésité, pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, l'obésité est partiellement transmissible à travers les gamètes, et en même temps, le phénomène étant non déterministe, heureusement, on peut aussi s'en sortir. Sauf que là, va se rajouter une couche qui va remettre de la complexité dans tout ça, et ça, c'est assez récent. Depuis une vingtaine d'années, on ne parle plus que de ça, le microbiote. Et en fait, on se rend compte de l'impact énorme que ça a. Et
sur nos gènes,
sur nous en tant qu'organisme,
oui, bien sûr.
Parce qu'on est, comme je disais tout à l'heure, 10 000 milliards de cellules, mais on est aussi un peu plus de 10 000 milliards de bactéries. Il y en a qui disent 100 000 milliards, peu importe la bataille des chiffres, en tout cas on a largement autant de cellules étrangères dans notre corps que de cellules à nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a même certains philosophes qui peuvent imaginer le corps humain comme n'étant juste qu'un support, finalement, à des bactéries et des levures. Finalement, on est élevé par des bactéries et des levures qui se servent de nous pour se reproduire et se nourrir de ce qu'il y a dans nos intestins, quoi. Bon, tout ça, c'est des...
D'où le « je mange, donc je suis » quand même.
D'où le « je mange, donc je suis ». Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que toutes ces bactéries qui nous colonisent ont un rôle énorme et qu'on ne cesse de découvrir et dont on ne cesse de comprendre l'importance, que ça soit sur la peau, dans les muqueuses et majoritairement aussi bien sûr dans notre intestin, dans notre système digestif, et à tel point qu'effectivement il y a beaucoup de désordres métaboliques dans lesquels on se dit mais en fait c'est le microbiote qu'il faut cibler, quoi. L'obésité en est un exemple. Il y a énormément d'expériences qui montrent que des transplantations fécales, c'est-à-dire qu'on prend le microbiote d'un individu pour le donner à un autre individu, change totalement le métabolisme et peut permettre de réverser une obésité. Mais pas que. Il y a aussi des syndromes, plus des ordres neurologiques, des autismes, des syndromes dépressifs et autres, que l'on peut réverser avec des changements de microbiote qui peuvent passer, dans le cas le plus extrême, par des greffes, effectivement, de microbiote. Et ça, c'est... Alors, est-ce que c'est de l'épigénétique ou pas? En fait, en tant que tel, non, parce que c'est un... Voilà, c'est plus une symbiose, un phénomène de symbiose entre... mes cellules à moi, qui possèdent tout mon génotype, et tous les autres que j'héberge et avec lesquels je vis en bonne entente, parce que les bactéries, moi je les nourris avec ce que je mange, et puis elles-mêmes me nourrissent avec ce qu'elles fabriquent dans mon intestin. Si on prend l'exemple de la fameuse vitamine B12, tout ça c'est des bactéries qui les produisent, hein, c'est pas... Donc heureusement qu'elles sont là pour me produire de la B12 et pour me produire de la vitamine C, et pour me produire tout un tas de choses que je suis pas capable moi de produire, mais dont j'ai besoin. Donc soit je mange directement, soit j'attends que les bactéries qui me colonisent me le fabriquent pour moi, et en échange je leur file du sucre, et puis elles sont contentes, et voilà, et on est en bonne entente, et tout va bien.
Passionnant, microbiote. Pour ceux que ça intéresse et celles que ça intéresse, on a fait un bon podcast absolument passionnant aussi avec Marc-André Sellos sur le sujet, je vous invite à l'écouter. Je voudrais comprendre maintenant quels sont les aliments concrètement qui vont influencer tout ça. Est-ce que on les connaît? Dit autrement, ma question c'est qu'est-ce qu'il faut manger en fait?
Alors, si je le savais, écrire des bouquins et être riche. Ceci étant, il y en a qui écrivent des bouquins sur qu'est-ce qu'il faut manger et qui racontent à peu près n'importe quoi. Mais encore une fois, l'alimentation, un organisme humain, on est loin de le comprendre. L'alimentation, c'est plusieurs milliers de composés différents. Donc, bien malin, celui qui est capable d'avoir une vue exhaustive de tout cela. Ça veut dire qu'on est obligé, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On est obligé d'abord de se reposer sur ce qu'on appelle des études épidémiologiques pour établir ce qu'on appelle des liens de corrélation. C'est-à-dire qu'on va faire des cohortes, on va analyser le régime alimentaire de 30 000 personnes sur 20 ans, on va regarder les pathologies qu'ils développent et on va essayer de croiser les données.
Ils ont mangé de la viande rouge.
Voilà, ceux-là, donc je prends tous ceux qui ont développé un cancer du côlon, là, dans mes 30 000, et puis je regarde s'il y a quelque chose de particulier dans le régime alimentaire. Ah, tiens, effectivement, ils ont mangé beaucoup de charcuterie. Ah, bon, ok. Je regarde ceux qui sont en pleine santé, je dis, ils ont consommé beaucoup d'huile d'olive. Ah, bon, je mets ça dans un coin de ma tête. Et puis, ça me donne des corrélations. Et ça me donne envie d'aller plus loin, parce que je peux pas essayer de comprendre tous les mécanismes de toutes les interactions, de tout ce que je mange en fonction de toutes les pathologies. Mais là, ça me donne des pistes. Et après, je peux regarder, je me dis, charcuterie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais décortiquer, et puis, nitrite, nitrate, ça, bon. La littérature me dit qu'il y a un effet, effectivement, in vitro sur des cellules, ça peut déclencher des changements de comportement cellulaire et autres. Je dis, je commence à avoir une piste pour éventuellement établir un lien de causalité. C'est peut-être les nitrates qui vont déclencher l'effet cancérigène de certaines charcuteries. Donc ça, c'est un effet délétère qui est toujours plus facile à mettre en avant, parce que si je prends une boîte de pétri, une boîte cellulaire, et puis je mets dessus un composé, et puis je vois que les cellules, effectivement, deviennent cancéreuses, je dis bingo, j'ai une molécule qui est cancéreuse. Bim. L'effet protecteur, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, déjà, d'un point de vue expérimental, déjà, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai ma boîte de pétri avec des cellules dans lesquelles je vais, par des tas de modifications chimiques, être capable de déclencher des changements cellulaires type cancéreux, ça on sait faire en laboratoire, et puis je vais mettre par-dessus un autre composé, voir si ça protège. Et puis là, j'ai souvent des effets, mais qui sont rarement spectaculaires. Mais je peux quand même avoir des effets. Et donc là, par exemple, je vais regarder, dans mon huile d'olive, je vais dire effectivement, il y a de l'oléocanthal. Ah tiens, l'oléocanthal, c'est un super antioxydant. Est-ce que ça a un effet? Paf. Et puis je vais faire mes manips, et puis je vais dire, ah, effectivement, ça a l'air de réduire l'effet cancérigène sur le traitement que j'applique à mes cellules. Donc, je commence à imaginer un lien de causalité, me dire peut-être que dans l'huile d'olive, l'oléocanthal nous protège du vieillissement cellulaire et donc du cancer, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à en tirer des injonctions.
Moins manger de viande, plus manger de...
Manger de viande, plus manger, plus consommer d'huile d'olive, et plus consommer de tomates parce que du lycopène, plus consommer des choux parce que sulforaphane, plus consommer soja parce que génistéine. Mais attention, soja, perturbateur endocrinien. Donc du coup, on se retrouve avec des messages contradictoires. Donc on ne sait pas trop quoi en penser. Plus consommer... Alors, de vin, oui ou non? Est-ce qu'on consomme du vin? C'est embêtant. Parce qu'effectivement, bah là, on peut avoir les deux discours. C'est ça qui est assez fascinant dans le vin, c'est que dans le vin, ah ben il y a de l'éthanol. Alors là, l'éthanol cancérigène certains, on le sait, c'est prouvé, c'est démontré, cancer, toutes les voies digestives, hein, pharynx, larynx, bref, colon évidemment, et puis même cancer du sein chez la femme pour des raisons inflammatoires et autres, c'est indirect. Donc alcool pas bon, hein, éthanol non. En même temps, dans le raisin, c'est bourré de resveratrol, un des plus puissants antioxydants qu'on connaisse, qui a des effets anticancérigènes extrêmement bien démontrés.
Mais donc, jus de raisin est pas mal.
Alors oui, sauf que, si seulement c'était si simple, sauf que, resveratrol, beaucoup moins accessible, beaucoup moins biodisponible
dans
le jus de raisin. Parce qu'il y a le processus de fermentation qui fait
donc,
que dans le vin...
Donc, vin désalcoolisé.
Donc, éventuellement, vin désalcoolisé. Et là, on rentre dans un autre domaine très controversé. Mais effectivement, vin désalcoolisé, riche en resveratrol, ouais, tout à fait. Donc, voilà, encore une fois, ça montre que dans l'alimentation, c'est une banalité absolue de dire ça, mais tout n'est jamais ni noir ni blanc. Il y a toujours une espèce de zone grise un peu floue. Dans ce qu'on va ingérer, dans tout ce qu'on va consommer, il y a un peu de bon, un peu de moins bon. Et le but du jeu, c'est d'optimiser la balance, c'est tout. Hein.
Est-ce qu'il y a des produits, quand même, on sait que c'est pas bon, quoi?
Oui, mais c'est plus... ça va plus être en fonction de mode de transformation, de mode de cuisson. Par exemple, si je prends l'exemple de la viande, ce qui a été assez souvent controversé, c'est que la viande rouge en tant que telle... Alors, aujourd'hui, on a peut-être des indications sur un rôle inflammatoire du côté du fer héminique, en fait, qui justement aurait un rôle de proliférateur cellulaire et donc pourrait expliquer que la viande rouge, même non transformée, est corrélé à certains types de cancers. Ça reste un peu débattu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je fais griller cette viande au barbecue, je vais générer des benzopyrènes qui, eux, sont des composés directement mutagènes, pour le coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, effectivement, une grillade, si je mange beaucoup de grillade, je vais incriminer la viande rouge, alors que dans le fond, c'est vraiment mon mode de cuisson qui n'est pas terrible. Et que si je m'étais contenté de manger de la viande bouillie, j'aurais sans doute pas du tout les mêmes syndromes.
Mais du coup, si je fais griller des courgettes... J'incrimine aussi.
Il y a des composés qui, de manière générale, quand un aliment noircit, on sait que ça peut être bon de goût. Beurre noir, c'est ça, l'arrêt au beurre noir, c'est parce qu'on va aimer ce côté un peu cramé, effectivement, cette odeur particulière. Le beurre noisette qui est bien, et puis après, on dérive vers le beurre noir. Objectivement, le beurre noir n'est pas bon pour la santé. Quand on va se mettre, voilà, quand on génère des composés comme ça, carbonés, c'est pas terrible. Je dirais quand même, heureusement, la nature est bien faite. Pas toujours, mais cette fois-ci, que la plupart du temps, quand on pousse trop loin en cuisson, c'est pas bon non plus, parce que ça déclenche des amertumes. Le caramel est un exemple classique. Un caramel, il est merveilleux, sauf que dès qu'il devient un peu trop noir, il est âcre, il est amer, c'est insupportable, et on n'a pas envie de le consommer. Et ça tombe bien, parce qu'il est extrêmement cancérigène à ce stade-là. Donc, de ce côté-là, la nature est bien faite. Voilà,
ok, donc plutôt les modes de cuisson. Ouais. Et les produits transformés, est-ce que je comprends? Tu nous as parlé de la charcuterie, j'imagine que dès qu'il y a des additifs qui sont cancérigènes, là on peut dire que notre alimentation...
Oui, mais tu vois, c'est pareil, additifs qui sont cancérigènes, normalement ça n'existe pas, parce qu'un additif qui est cancérigène n'est pas autorisé sur le marché.
Bah, les nitrites.
Mais alors, au départ, au niveau de la mise sur le marché. Après, évidemment, tout ça va être... ça peut être 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, qu'on va finir par dérouler des ficelles et dire, bah, attendez... Là, cette histoire-là, on a peut-être eu, au moment, les données qu'on avait ne montraient pas d'effet, mais maintenant, la science a avancé. Et la nutrition, c'est ça. Il n'y a aucune science plus fragile que la nutrition. C'est-à-dire, encore une fois, si on veut être confortable en science, il vaut mieux faire de la physique que de la nutrition. La physique d'il y a 3 siècles est toujours la même que celle d'aujourd'hui, hein, sauf si je prends la relativité générale et la physique quantique, mais la mécanique n'a pas changé depuis Newton. Hein. Donc, je suis tranquille, je peux prendre Newton et l'utiliser dans mon livre de référence pour mes cours en amphi aujourd'hui. Par contre, la nutrition, si j'ai un bouquin qui a plus de 10 ans, c'est mort. Donc, je suis obligé, effectivement, en permanence, de mettre à jour les données, parce que tout ça, c'est des choses qu'on comprend au fur et à mesure. Et donc, oui, effectivement, les nitrates, les nitrites, bon, on finit par en comprendre le rôle, on finit par comprendre l'influence que ça peut avoir. Mais l'ironie de la chose et toujours pareil, hein, c'est le milieu de l'agroalimentaire est subtilement complexe. Ce focus mis sur les nitrites a fait émerger une réponse immédiate qui est ces fameux produits sans nitrites ajoutés. On voit ces jambons, effectivement, sans citer de marque, sans nitrites ajoutés, etc. Et le consommateur se rue sur ce marché-là, il paye ça plus cher, il est content parce qu'il n'y a pas de nitrites ajoutés. Il n'y a pas de magie, hein. Il n'y a pas de nitrites ajoutés, il y a juste des bouillons végétaux ajoutés. Et pourquoi ces jambons sont cuits dans des bouillons concentrés? Parce que les bouillons concentrés sont très riches en nitrites, naturellement produits, parce que, en fait, les végétaux sont très, très riches en nitrates, et ces nitrates peuvent être métabolisés et transformés en nitrites dans certaines conditions. Donc en fait, on a juste des nitrites naturels.
Qui ont peut-être moins d'effet quand même.
Non.
Ah ok.
Non,
les nitrites, mais attends, là, t'es en train de nous dire que tout bouillon produit des nitrites ?
Non, parce qu'il y a une manière effectivement de faire des bouillons, l'industriel maîtrise pour... Oui, tout bouillon va produire des nitrites, mais il y a une manière d'augmenter cette quantité de nitrites pour justement avoir cet effet protecteur.
Okay.
Parce que les nitrites sont d'excellents bactéricides, ça, et c'est pour ça qu'ils sont utilisés effectivement. Et c'est d'un point de vue sanitaire à court terme, c'est merveilleux. On n'a rien trouvé de mieux. Et c'est parce qu'on n'a rien trouvé de mieux que c'est très difficile de virer les nitrites de la charcuterie, parce que si on veut lutter, s'il y a quasiment aujourd'hui plus aucun cas de botulisme dans notre alimentation, c'est merci les nitrites, parce que effectivement, c'est y a rien de plus efficace. Donc, et aussi, il faut quand même faire la part des choses et
bien
de se
sûr.
Dire oui, on peut essayer de partir sur des modes de conservation plus soft, etc., mais est-ce qu'on est prêt à revenir 50 ans en arrière avec les intoxications alimentaires qui étaient 100 000 fois plus nombreuses, hein, avec des morts à la clé, hein. Donc toujours pareil, encore une fois, on est sur cette balance bénéfice-risque en se disant bon, la viande, c'est un élément qui peut être facilement contaminé. Est-ce que j'assure le coup à coup de nitrite en me disant bah bon, par contre, il faudra que j'en consomme pas trop parce que 20 ans plus tard, si je pourrais déclencher un cancer si j'en consomme trop. Ou est-ce que je pars sur l'idée de me dire non, pas de nitrite, mais c'est peut-être demain que je vais crever de botulisme. Hein, donc, voilà.
C'est un peu le sujet, c'est qu'au final, le jambon qui est devenu le plat quotidien des enfants, bah non, en fait. Il faut manger diversifié et manger, on le sait, pour des raisons environnementales, de toute façon moins de viande, et aussi pour ces raisons sanitaires.
Si on ne veut pas prendre de risque, mais en même temps délivrer le message, finalement, à l'heure actuelle, le plus robuste en termes de nutrition, je crois que c'est l'adage un peu d'ailleurs du gourou Michael Pollan, mais dire tout simplement, ça tient en quatre mots, c'est un peu de tout. C'est-à-dire que quand on dit manger un peu de tout, en quatre mots, on a sorti les deux critères essentiels qui sont la frugalité et la diversité. Et si on coche les deux cases frugalité, diversité, il n'y a pas besoin de faire un doctorat de nutrition pour s'alimenter. Et tant mieux, parce qu'on n'est pas nombreux à avoir des doctorats de nutrition. Et ça pour des raisons qui sont, au départ, qui sont du bon sens, mais que la science commence à être capable d'expliquer. C'est-à-dire que la diversité, on le voit parce qu'effectivement, on dilue, avec une alimentation diverse, on dilue les éventuels composés pathogènes, et en même temps, on est sûr aussi de limiter les carences et d'aller choper tous les composés dont on a besoin, puisqu'on a une palette extrêmement diverse. Donc, dans l'eau, je ne sais pas exactement quelles vitamines j'ai besoin, quels minéraux, etc., mais si je mange de tout, ils vont être là, quelque part, présents. Et en fait, ça va être très difficile de déclencher des carences avec une alimentation variée, parce qu'on est quand même extrêmement robuste, justement, en termes de différentes quantités de nutriments et de vitamines qui sont compatibles avec une bonne santé. Et de l'autre côté, donc la frugalité, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. C'est vraiment des études, encore une fois sur modèles animaux, qui montrent qu'effectivement, avec un régime un tout petit peu... faiblement calorique, c'est-à-dire qu'on est un tout petit peu en dessous de l'espèce de métabolisme moyen à 2000-2500 kilocalories par jour, c'est un facteur d'allongement des durées de vie, et chez le rat, c'est 30% d'allongement de la durée de vie, donc c'est énorme. Vous pourriez imaginer qu'à l'échelle humaine, on gagne 30 ans, quoi, bim, comme ça, juste en restant mince et en mangeant vraiment la quantité minimale pour arriver à survivre à ses journées, quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu le paradoxe aussi de ces études que je mentionnais tout à l'heure sur les restrictions caloriques, les famines, etc.
C'est que des gens qui vivaient longtemps.
En fait, on peut avoir des gens qui effectivement étaient un peu chétifs, etc., mais en fait, qui vivaient plutôt assez vieux, parce que voilà, on est sur des modes de
Donc le jeune intermittent, c'est plutôt intéressant.
Alors intermittent, je sais pas si c'est intéressant, parce que les fluctuations comme ça, je sais pas si c'est intéressant. Ce qui a été montré, c'est plutôt un jeûne constant, un léger jeûne constant, plutôt que des.
Oui, mais intermittent, tu sais, c'est que tu manges pas en gros de 8h à 8h. Enfin, tu jeûnes pendant plus de 12h ou 15h.
Bon, ça, faudrait effectivement regarder quelle est la manière la plus astucieuse de faire un jeûne, si on veut faire un jeûne. Parce qu'après, bon, on peut quand même penser à...
Au plaisir de manger.
Au plaisir de manger, quand même.
J'ai une question sur, sur les plats ultra transformés, parce que tu nous as parlé de l'importance du microbiote. Est-ce qu'on avait compris dans ce podcast, quand on avait fait le microbiote, c'est aussi l'influence des produits ultra transformés sur ce microbiote. Tu nous dis, OK, il y a des additifs qui sont normalement pas cancérigènes individuellement. Mais pris ensemble, il y a déjà la question de l'effet cocktail, et il y a ensuite la question de... ces additifs sur notre microbiote qui vont venir, c'est ce que nous expliquait, on a eu la chance de faire une conférence ensemble avec Karine Clément, vont venir réduire notre paroi intestinale et avoir un effet derrière sur notre santé.
Ben oui, mais ça encore une fois, la question des aliments transformés est une question qui a émergé très récemment, qui fait beaucoup parler d'elle, et c'est normal, comme toutes les questions émergentes. C'est un peu comme l'histoire du microbiote, et qui est liée effectivement. On se rend bien compte, de nouveau, avec cette étude de corrélation, qu'il se passe quelque chose, avec ces corrélations très fortes entre une forte consommation d'aliments transformés et une forte apparition de pathologies diverses, diabète, obésité et autres. Au niveau des mécanismes, effectivement, comme tu viens de le mentionner, on sait que le microbiote est un élément transmetteur, enfin un acteur, de ces schémas-là. Par contre, cette histoire est quand même relativement récente, on est loin d'en avoir les clés. Et ce que je veux dire par là, c'est se pose d'ailleurs la question dès le départ de est-ce qu'on a un effet directement délétère des additifs, de la matrice, des aliments qui est transformé, etc. Ou est-ce que c'est en fait un effet par défaut qui vient du fait qu'une alimentation riche en aliments transformés est en fait une alimentation pauvre en aliments bruts. Et de se dire que finalement, manger des pizzas, c'est pas grave, y compris des pizzas hawaïennes, mais si je ne mange que ça, je ne mange pas de céleri ou de carottes, etc. Et c'est peut-être ça, en fait, c'est l'effet protecteur de croquer des branches de céleri et de manger des carottes râpées que je perds en ne consommant que des pizzas. Donc, d'où on va revenir à la variété. Et effectivement, le message, quand même, celui des nutritionnistes aujourd'hui, que dire bah, mangez des pizzas si vous voulez, mais n'oubliez pas aussi de croquer dans des carottes et de manger des branches de céleri. Et après, par-dessus ça, effectivement, bah, y a la question des additifs. On ne sait jamais trop comment se positionner parce que les additifs, bah, voilà, encore une fois, on en a parlé, il peut y avoir un effet de dose, il peut y avoir tout un tas de choses qui ne sont pas totalement maîtrisé, et de plus en plus quand même effectivement des études qui arrivent à mettre en avant et à pointer du doigt de plus en plus certains additifs en mettant en avant des mécanismes. Par exemple sur certains émulsifiants qu'on pensait à peu près safe, et puis on se rend compte bah, vous voyez, sur la muqueuse intestinale, vous voyez, ça peut avoir un effet de porosité, et puis tel texturant, à forte dose, il va avoir un rôle inflammatoire qu'on n'avait pas trop anticipé. Donc il y a des choses quand même effectivement qui pourraient aller dans le sens du moins on va utiliser des additifs, le mieux on va se porter. Mais c'est un message un peu simpliste quand même, parce qu'il y a aussi vraisemblablement des additifs qui sont objectivement totalement inoffensifs, parce que la catégorie additif est une catégorie qui est arbitraire. C'est additif, pardon, je vais rajouter dans un aliment, mais l'aliment lui-même possède des milliers de composés, et si j'isole un de ces composés, je pourrais le considérer comme un additif finalement. Donc... Quand je croque une algue, je croque des carragénanes. Bon, aujourd'hui, les carragénanes sont un additif parce que on est capable de les extraire et de les réinjecter pour un rôle de texturant. Donc, est-ce que les carragénanes que je croque dans mon algue sont plus ou moins inoffensives que la poudre que je vais mettre pour faire mon flan à la vanille parce que j'ai pas d'œufs et puis je suis végane et donc, enfin, c'est pas vrai, mais imaginons. Et puis je mets du lait de soja et puis je peux pas mettre d'œufs, donc je mets mon carragénane et je fais un flan végé. Est-ce que ces carragénanes là sont plus ou moins mauvais que si je faisais sécher des algues et que comme le faisaient les Bretons à l'origine, hein, avant qu'on invente le carragénane en poudre, eh ben, il prenait du Condus crispus qu'il faisait sécher, puis après il mettait ça dans du lait et puis il faisait bouillir et puis ça faisait un flan qui avait un petit goût d'algue quand même, mais quand on était habitué ça passe. Et donc dans un cas on a un additif, dans l'autre on a une algue. Je pourrais pas dire s'il y a quelque chose qui est meilleur ou... Parce que voilà, derrière tout ça, il y a quand même le fantasme du naturel et de l'artificiel et du synthèse. Et attention, c'est extrait, donc c'est toxique. Et puis, non, enfin, c'est de la connerie. C'est comme les histoires de... comme on disait, nitrite tout à l'heure, un nitrite naturel ou de synthèse, ça n'existe pas. Un nitrite, c'est un nitrite. Alors après, qu'on arrive à l'extraire d'un légume ou qu'on le synthétise et puis qu'on l'injecte, c'est un nitrite. La vitamine C, c'est pareil. Hein. La vitamine C, c'est de la vitamine C. Que ça soit fabriqué par une bactérie ou dans un réacteur, par une industrie ou dans une pomme qu'on va croquer, bah, c'est de la vitamine C. Hein.
Et dans le vin nature, c'est aussi pareil, j'imagine, avec les... J'ai oublié le nom. Aide-moi.
L'éthanol ?
Non.
Oui, c'est pareil, l'éthanol.
Les sulfites.
Ah, les sulfites. Ah, les sulfites. Alors, si tu m'emmènes là-dedans. Non, les sulfites, vaste sujet. Le sulfite, un peu comme les nitrites, super conservateurs. Hein, donc, c'est pas pour rien qu'on en met dans tous les vins.
Mais qui sont aussi naturels.
Qui sont naturels dans... parce que, en tant que super conservateurs, si tu veux, c'est toujours. On revient sur nos histoires de symbiose. Les levures. Pourquoi elle fabrique de l'alcool ? Alors, pourquoi ? On ne va pas faire de l'anthropomorphisme ou de la finalité, hein, ou de l'intelligent design. Mais voilà, le fait est que quand je suis une levure, j'aime bien faire de la place autour de moi et montrer que j'occupe le terrain et lutter contre mes compétiteurs. Et il se trouve que l'alcool est justement est un composé qui est plutôt bactéricide. Donc, je m'assure d'assainir mon environnement en tant que levure en fabriquant de l'alcool. À un certain point, parce qu'il y a un moment, quand je suis dans 14, 15, 16 degrés, je commence à m'intoxiquer moi-même.
Okay.
Donc, c'est pour ça que tes fermentations stoppent.
D'accord.
On est à ce niveau-là. Bon. Pareil pour les sulfites. Les sulfites sont un excellent bactéricide, mais pas pour toutes les espèces. Donc, il y a voilà, des espèces qui vont sécréter des sulfites, un peu pour. Ça va permettre un peu comme ça de faire le ménage autour d'elles, de se protéger. Donc, c'est un conservateur, effectivement, naturel vis-à-vis de certains types de bactéries qui pourraient, en l'occurrence, endommager, dans les critères organoleptiques qui sont les nôtres, le vin. Bon. D'où l'idée d'en rajouter pour assurer le coup. Maintenant, tout le fantasme autour de ces sulfites vient du fait qu'on aura. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens leur attribuent des effets
négatifs,
des réactions négatives en disant « Ah ben moi, les vins conventionnels, je peux pas parce que vraiment, ça me donne mal au crâne, etc. » Or, il n'y a absolument rien qui a été démontré dans ce sens-là.
Hein. Okay.
C'est-à-dire qu'on est dans un effet qui relève sans doute beaucoup de la psychologie. Et,
en revanche, l'effet sur l'alcool et le mal de tête.
Ce qui est sûr que l'éthanol fait mal au crâne. Ouais. Donc, quand on a mal au crâne, en disant « Ah, c'est encore les sulfites », non, c'est l'éthanol. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Par exemple, et on retombe sur le microbiote, il y a quelques études qui commencent à montrer que ben, ces sulfites qu'on ingère, dans le vin, mais aussi dans les abricots secs, etc., dans tout, parce qu'ils ont un rôle de conservateur, c'est des bactéricides, donc ils ont peut-être un rôle sur notre microbiote intestinal.
Ah ouais.
Donc il y a peut-être un truc à aller chercher de ce côté-là qu'on n'avait pas imaginé au départ. Donc c'est intéressant. Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui va filer mal au crâne. Et je dirais l'ironie est même presque dans l'autre sens, puisqu'il a été montré, pour le coup, que faire des vins sans sulfite ajouté nous met dans des conditions où on est à du 10 mg par litre en haute, qui ne sont pas forcément suffisantes et qui vont laisser se développer des bactéries qui sécrètent potentiellement des amines biogènes. Les amines biogènes, c'est des amines qui déclenchent des allergies et qui peuvent, chez certaines personnes, déclencher des maux de tête. Pour de vrai, cette fois-ci. Donc l'ironie veut que finalement, le vin nature pourrait déclencher des maux de tête, finalement, peut-être plus facilement que les vins conventionnels. Je ne veux pas rentrer dans ce type de guerre parce que voilà, beaucoup d'amis dans le vin nature aussi, mais aussi dans le vin conventionnel, donc je ne vais pas prendre parti. Mais en tout cas, ce qui est intéressant une fois de plus, c'est que voilà, rappeler que tout ça est extrêmement subtil. Et après, il faut revenir à une consommation en pleine conscience, si on veut prendre un langage New Age limite naturopathe. Là aussi, je ne vais pas me faire des amis chez les naturopathes, pardon. Mais boire du vin, ça veut dire... La seule vraie justification pour boire du vin, c'est parce qu'on y trouve du plaisir, point barre. Donc c'est pour ça que c'est une aberration totale de boire du mauvais vin. Et la notion de mauvais étant totalement subjective, eh bien, voilà, chacun doit, en pleine conscience, boire du vin quand il éprouve du plaisir à le boire. Ce qui est mon cas, je ne passe pas un seul repas sans boire de l'alcool. Jamais. C'est, je n'ai pas souvenir de dernier repas.
C'est un principe de vie, là.
C'est pas un principe, justement. et tout ça en enseignant en fac de médecine depuis 15 ans que l'éthanol est cancérigène. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Ben, c'est juste que j'aime, effectivement, accompagner, je déteste boire de l'eau plate pendant mes repas parce que je trouve ça très désagréable. Et donc, j'accompagne systématiquement mes repas avec, alors quand je dis ça peut être un verre de vin, un verre de bière, un verre de cidre, etc. Et pourquoi ? Parce que voilà, la balance bénéfice-risque, pour moi, elle est là. C'est que le bénéfice, le plaisir que j'en tire, j'estime supérieur à l'éventualité et qui ferait que dans 20 ou 30 ans, je déclencherai un cancer du foie, sachant sachant que la consommation est extrêmement modérée. Voilà, il me suffit de mon verre pour être heureux et j'ai pas besoin d'aller au-delà de ça. Mais ça, c'est vrai pour toute la chaîne alimentaire. C'est pareil, de la même manière, je vais consommer régulièrement du saucisson parce que j'aime le saucisson. Et oui, bah oui, effectivement, c'est de la viande transformée, il y a des nitrites et tout ça, mais c'est tellement bon que bon, voilà, une tranche. Et puis je sais qu'après, je vais pouvoir donner mon cours à la fac en expliquant pourquoi c'est cancérigène, mais n'empêche que voilà, c'est l'alimentation, encore une fois, c'est pas que des composés qui sont là pour réguler notre santé, c'est aussi la santé mentale et le plaisir qu'il faut jamais, jamais négliger.
On en est déjà à une heure d'enregistrement et j'ai encore quelques questions. On a parlé un peu de l'alimentation carnée. Est-ce que si on passe à une alimentation végétarienne, voire végane, ça va influer sur nos gènes?
Alors, sur nos gènes, je n'ai pas de données là-dessus, là, pour le coup.
Okay.
Sur le microbiote, oui. Donc, pour revenir sur ce volet-là, oui. Sur nos gènes,
il y a un effet positif ou négatif sur le microbiote?
Un effet plutôt positif, à condition que cette alimentation végétale repose sur une alimentation variée.
Okay.
C'est-à-dire que si je remplace mes steaks de viande par des steaks de soja, et que c'est ma seule alimentation, que dalle. Donc, une fois de plus, on retombe sur de la variété et notamment l'effet des fibres, qui est quand même fondamental pour mon microbiote. Donc, si je me gaffe de fruits et légumes, ouais, ça, l'effet sur le microbiote est indiscutable. L'effet épigénétique, c'est une bonne question. Je n'ai pas vu d'études passer là-dessus. Elles m'ont peut-être échappé. D'effets qui soient un peu spectaculaires, un peu directs. Là, je n'ai pas. Non.
Et je voudrais te poser la question de l'influence de nos gènes sur notre alimentation. Est-ce que les gènes ont aussi un rôle à jouer dans notre goût? Tu as parlé tout à l'heure de la pizza hawaïenne parce que dans la conférence qu'on a fait ensemble, tu nous as dit que c'était la meilleure. Moi, je trouve personnellement que c'est extrêmement mauvais, la pizza hawaïenne. Est-ce que, donc, selon nos gènes, on a des préférences gustatives, voire on a même des besoins en alimentation différents? Là, tu nous as déjà un peu répondu avec la micronutrition.
Ouais.
Qu'en est-il?
Alors... À l'heure actuelle, les données que l'on a sur le goût penchent quand même très fortement sur un facteur purement culturel. C'est-à-dire qu'on exprime tous, dans des proportions qui peuvent être différentes quand même, mais on a accès aux mêmes saveurs qui sont à l'heure actuelle officialisées à 5, mais tout ça, ça relève d'analyses biochimiques, donc le fameux sucré, salé, acide, amer, umami. Mais on sait que derrière, en embuscade, il y a sans doute l'oléogustus, hein, c'est-à-dire que la saveur des acides gras, il y a sans doute aussi certains composés métalliques qui vont déclencher vraiment un signal qui relève d'un stimuli type saveur. Tout ça, c'est des manières de classer un peu, mais on a des appétences naturelles, universelles pour certains types de saveurs et une réversion et un rejet d'autres types de saveurs. Très concrètement, on apprécie partout dans le monde le gras, le sucré, le salé et l'umami. Pour des raisons d'évolution, de stabilisation de ce type de d'expression, parce que ça c'est des expressions de canaux ioniques et de protéines membranaires dans nos papilles gustatives, donc c'est on peut le mesurer biochimiquement, le voir, l'analyser. Et ça relève du fait qu'on a besoin de minéraux. Donc, on a besoin d'apprécier le sel, on a besoin d'acides aminés, donc on a besoin d'apprécier l'umami, on a besoin d'énergie, donc on a besoin d'apprécier le sucre. Et puis le gras, c'est de l'énergie aussi, et c'est des acides gras qui sont fondamentaux, donc c'est normal d'apprécier le gras. D'où cette idée, effectivement, que voilà, manger gras, salé, sucré, c'est presque un automatisme. D'où ces alertes, attention, ne mangez pas trop gras, salé, sucré, parce qu'on a tellement envie spontanément de manger gras, salé, sucré, qu'on a tendance à y aller peut-être un peu trop. Bon. Et à côté de ça, il reste l'acidité et l'amertume, qui sont des rejets, parce que qui dit amertume dit potentiellement toxicité, qui dit acidité aussi dit fruits pas encore mûrs, dit fermentation pas bien maîtrisée, etc. Et donc, peu importe son origine ethnique, un nourrisson, il fait la même grimace quand on lui donne de l'amertume ou de l'acidité. Ça veut dire que ces deux saveurs-là, on va être contraint de les apprivoiser. Et au fur et à mesure, effectivement, on va être capable de se mettre à apprécier l'acidité, à apprécier l'amertume à l'adolescence, où on va commencer à boire de la bière et pour des raisons sociales, et puis du café, et puis tout à coup, quelques années plus tard, on va vraiment, objectivement, apprécier l'amertume du café et l'amertume de la bière, surtout riche en houblon. Donc ça, c'est de l'apprentissage. Et donc, il y a un côté, voilà, un côté un peu universel. Après, il y a toute la sphère des odeurs, qui est la deuxième sphère qui est prépondérante dans notre perception des aliments et qui, elle, relève sur des milliers de composés différents. C'est-à-dire, on n'est pas à 5, on est sur des milliers avec des combinatoires qui est estimé à plus de 10 000 milliards de combinaisons possibles. Donc, ça dépasse largement ce qu'on est capable d'analyser réellement. C'est-à-dire que le monde des odeurs est infini. Quand je dis odeur, c'est odeur et arôme en rétro-olfaction. Et donc là, effectivement, c'est là-dessus qu'on a des grosses divergences culturelles. Si je prends un exemple le plus classique, c'est voilà, les fromages forts. Bon, ben, en France, on aime le fromage. Une odeur d'ammoniac sur un camembert, ça ne nous dérange pas. Bon. En Asie, l'odeur ammoniaquée n'existe pas. Donc, un camembert fort, on va ne pas apprécier ou alors se forcer à apprécier parce qu'on veut apprécier la culture française. Et donc, on va se mettre à... Quand on a des migrants, effectivement, en Asie, qui viennent, qui s'installent en France, ils peuvent finir par apprécier les fromages français parce que effectivement, ils se baignent dans cette culture. Et comme nous, on va apprécier au fur et à mesure la bière en grandissant, eux, ils vont apprécier au fur et à mesure ces fromages forts. Et quand on, à l'inverse, on va aller voyager en Asie, on va découvrir les œufs de 100 ans ou autres types de composés qui sont extrêmement soufrés. On va regarder ça, on va dire, mais comment ils peuvent manger ça? Et puis, si on s'installe longtemps et qu'on veut jouer le jeu et qu'on veut finir par apprécier, ben, on va peut-être finir par domestiquer ce palais pour avoir ces goûts soufrés qu'on va finir par apprécier. Donc quand même, le goût, c'est une construction. C'est une construction à l'échelle individuelle sur, voilà, entre la naissance et puis qui continue d'évoluer jusqu'à notre mort, hein, parce qu'on peut avoir des goûts qui vont changer, même si tout ça s'installe quand même à la petite enfance et à l'adolescence, principalement. Et après, il peut y avoir des aversions qui sont déclenchées, mais sur des syndromes, enfin, sur des phénomènes très violents. Très concrètement, je mange des huîtres, je suis malade pendant 3 jours, et ben je vais me mettre à avoir un rejet derrière qui va perdurer sur les huîtres que j'adorais avant, mais là mon organisme il peut plus. Bon, ça c'est des accidents, on va dire, assez classiques. Mais donc cette construction, voilà, elle se fait tout au long de notre vie et elle est phénoménale parce qu'effectivement elle va déclencher aussi un certain nombre de comportements alimentaires, sans oublier le troisième volet, enfin, qui est le volet trigéminal, qui relève de tout ce qui est le piquant, le frais, etc. Et il y a des cultures dans lesquelles, effectivement, on est habitué dès le plus jeune âge. Si je prends la Thaïlande ou autre, ou beaucoup de pays d'Asie, ou le Bhoutan, où j'avais passé une semaine, on bouffe du piment tout le temps. Et ils sont là habitués, ils adorent ça. Et c'est vrai que, bah, voilà, ils ont besoin de ça. Un plat non pimenté leur paraît fade. Fade, ouais. Voilà. Bon, donc tout ça, c'est complètement culturel.
Mais donc, si on tire le fil, en tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alimentation genrée. Que le fait que les hommes soient et une appétence pour la viande, c'est purement culturel.
Oui, c'est complètement culturel. Ça, oui. Mais d'ailleurs, c'est un imaginaire, mais qui n'est pas reflété par les chiffres. Quand on prend les chiffres de la consommation de viande, les chiffres réels chez les hommes et les femmes, en fait, il y a très peu de différence. Hein. C'est-à-dire qu'on a cet imaginaire que c'est surtout les hommes qui mangent de la viande parce qu'ils aiment ça. Et en fait, alors pour la charcuterie, je crois qu'il y a une vraie différence. J'ai plus le pourcentage en tête, mais c'était significatif, effectivement. Mais qui relève aussi d'une différence culturelle. Il n'y a aucune raison de manger plus de saucisson quand on a un chromosome XY que quand on a deux chromosomes X.
On en arrive à la conclusion de ce podcast. Je vais te poser les questions que je pose à tous mes invités. La première sera: quelles mesures tu souhaiterais souffler au gouvernement en faveur d'une alimentation plus durable?
Alors ça, je vais être d'une banalité absolue parce que je pense que c'est la clé. La clé, c'est l'accès. C'est-à-dire que quand on parle d'alimentation, on a envie de cocher 3 cases. La case du plaisir, qui est pour moi la première à cocher. Parce que si on la coche pas, le reste s'effondre. Si j'ai pas envie de manger un truc, il a beau être sain et durable, si je le mange pas, c'est foutu. Parce que ça va pas être sain, et puis ça va être du gaspillage alimentaire. Donc le plaisir, c'est number one. Après, si je déroule la chaîne, il faut que cette alimentation soit saine. Pour moi, donc c'est un acte un peu égoïste, mais j'ai envie de tenir compte de ma santé. Et puis, si je me tourne vers l'environnement, un acte un peu plus sociétalement altruiste, dire ben, faut que ça soit bon pour mon environnement. Donc ça, c'est un peu les 3 cases auxquelles on pense systématiquement, le plaisir, la santé, l'environnement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est cocher ces 3 cases, ça veut dire être capable de cocher ces 3 cases, ça veut dire être dans une situation, dans ce confort, que j'ai le choix, que je peux les cocher. Et donc là, il ne faut surtout pas oublier les dimensions effectivement d'accessibilité. Donc pour moi, les mesures urgentissimes et obligatoires à avoir, au-delà des histoires de, effectivement, je calcule l'empreinte carbone de ceci, etc., c'est je donne accès aux 70 millions de Français à l'alimentation à laquelle ils veulent avoir accès. Je ne parle pas d'aliments chics, pouvoir donner du caviar à tout le monde et tout ça, ce n'est pas l'enjeu. Mais dans une alimentation, on va dire, raisonnable, donner un accès à cette alimentation. Donc tout ce qui est en train de se produire autour de la fameuse sécurité sociale alimentaire, etc., pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que c'est la clé. Si on passe notre temps, et c'est un peu, et je suis désolé de dire ça, mais c'est ça fait 20 ans que je participe à des forums, des conférences, etc., sur l'alimentation. Toi aussi, et je pense qu'on a le même constat, c'est quand même, on est quand même assez souvent à se retrouver avec les mêmes personnes, avec un public qui est un public intéressé, qui est, etc., etc. On a un peu tendance à tourner en rond. Et en fait, j'ai pas de solution. C'est-à-dire que dès qu'on organise un événement sur l'alimentation, c'est des gens intéressés par l'alimentation qui viennent et tout le monde est content et tout le monde veut manger bio et tout le monde veut manger sain et tout le monde veut baisser son empreinte carbone et tout le monde est beau et tout le monde est gentil et tout va bien, quoi. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est justement être capable d'intéresser les gens qui ne s'y intéressent pas, soit parce qu'ils sont pas au courant, soit parce qu'en fait, ils s'y intéressent et il faut pas faire de catégorisation et de stigmatisation de classe beaucoup trop facile à faire. Mais en fait, ils ont la connaissance, mais ils ont pas les moyens de mettre en œuvre ce que leur connaissance leur dicte. Et donc, pour moi, le levier, il est là. Il est là, et donc, on va retomber dans tout ce qui fait beaucoup parler aujourd'hui, c'est l'accès au bio, c'est l'accès aux fruits et légumes. Alors, dans ce sens-là, la végétalisation va plutôt dans le bon sens, parce que les légumes, fruits et légumes, sont plutôt moins chers que la viande, sauf que non, parce que maintenant, on a effectivement, notamment sur les viandes blanches importées, on a des viandes qui sont effectivement à très très bon marché. Donc il y a un vrai, il y a un enjeu qui est, une fois de plus, l'argent est le nerf de la guerre, pour sortir des banalités absolues, mais la banalité a une origine, c'est qu'effectivement, on se rend compte que tout se joue là. Que si aujourd'hui, dans le monde idéal que j'imagine, c'est chacun pourrait effectivement, aurait accès à l'alimentation qu'il souhaite mettre dans son assiette, que ça soit une pizza hawaïenne, ou que ça soit un bol de céleri rave. Et une fois qu'il a choisi que c'est un bol de céleri rave, que cette personne puisse acheter son céleri rave bio s'il a envie que ça soit bio, et qui n'est pas derrière ça le critère du « j'aimerais bien, mais je ne peux pas ». Et pour moi, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut agir.
Si tu avais un conseil à donner pour mieux cuisiner au regard de ses connaissances scientifiques, plus d'huile d'olive.
Ouais, alors, plus d'huile d'olive, oui. Parce que c'est impossible de consommer trop d'huile d'olive. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais aucune étude qui a pu montrer un effet délétère d'une surconsommation d'huile d'olive. Donc effectivement, non, mais au-delà de ça, un conseil, alors c'est vrai que c'est difficile comme ça, je dirais que le seul conseil, c'est de cuisiner, en fait, finalement. Non, mais ça paraît bête.
Sans brûler.
Ouais, cuisiner sans brûler, c'est-à-dire que... Et puis, on a dit tout à l'heure, alimentation variée, ça passe aussi par une cuisine variée. C'est-à-dire que dans la cuisine, ce que j'aime bien rappeler, la cuisine, c'est la culture qui transforme la nature. C'est-à-dire que la nature, c'est les ingrédients, et la culture, c'est la manière de les transformer. Il n'y a pas de cuisine s'il n'y a pas de transformation. C'est-à-dire que si je me contente d'acheter un aliment, de le croquer, je m'alimente, mais je ne fais pas de cuisine. Et la cuisine à ce levier extraordinaire d'être capable de modifier les goûts, modifier les valeurs nutritionnelles, modifier la conservation, modifier tout un tas de choses. Et ça, de manière assez simple, pour citer Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. Et faut vraiment, je pense que le message fondamental, c'est d'aborder la cuisine de manière totalement décomplexée. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, j'ai la prétention de dire que si je passe une heure avec lui, il saura cuisiner. Je suis pas magicien, mais en une heure, en fait, qu'est-ce que je vais lui apprendre? Je vais lui apprendre à laisser tomber tous ses tabous, tous ses complexes, etc. Et se rendre compte que finalement, on prend une poêle, on balance dedans des trucs qu'on a envie de mettre, on met un corps gras, on met un assaisonnement et on goûte et on vérifie. Et puis, si ça nous plaît, on est content et on a bien cuisiné, quoi. Et c'est extrêmement simple, la cuisine. C'est extrêmement simple. Dire faire un pâté en croûte qui remporte le concours des pâtés en croûte, c'est compliqué. Mais on n'en est pas là à la maison, quoi. Donc le conseil, c'est allez-y, cuisinez, goûtez, et si ça vous plaît, c'est que vous avez bien travaillé, quoi.
T'as une recette fétiche à nous donner?
une recette fétiche, alors là tu me prends un peu au dépourvu, mais oui, c'est celle que je viens de mentionner en fait. C'est-à-dire que tu prends une poêle, tu mets n'importe quoi dedans, avec un corgrain, un peu de sel, et des bons ingrédients bien sûr, et tu goûtes et tout va bien quoi. Sinon, bah, évidemment la pizza hawaïenne, mais sachant qu'il y a plein de manières de la faire quand même, parce que là attention, t'as pris un risque en me lançant là-dessus, mais la pizza hawaïenne, tu peux mettre l'ananas directement sur la pizza, mais tu peux aussi faire un coulis d'ananas avec la tomate pour...
Mais en fait, moi, il y a un truc culturel, moi, l'idée de l'ananas sur une pizza.
Ou plutôt le meilleur que tu peux faire, c'est en fait faire ta pâte à pizza, de l'humidifier en fait avec du jus d'ananas pour l'hydrater. Donc tu fais ton levain à l'ananas et comme ça, l'ananas, t'es pas sur la pizza et là, t'as un croustillant un peu sucré-salé dans la pâte qui en fait, inconsciemment, tu manges ça, tu dis c'est super bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as mis dans ta pizza? Et là, bim, tu révèles le secret et tu dis ben, j'ai mis un jus d'ananas pour hydrater ma pâte à pizza. Et là, infarctus pour la personne.
Est-ce que t'aurais un conseil de lecture ou de film pour... approfondir le sujet dont on vient de parler.
Film, je suis pas hyper calé, je suis pas très très cinéphile moi. Par contre, ouais, bah oui, en conseil de lecture, encore une fois et toujours, Bria Savarin, La physiologie du goût. À lire, relire, relire, ça fait 300 pages, mais.
Puis vient d'avoir là une édition qui a été commentée. Que...
Oui, enfin, ça fait un petit moment, hein, l'édition, effectivement, enfin, une édition, enfin, je ne veux pas citer d'éditeur, mais voilà, c'est un texte qu'on trouve partout et qui est régulièrement réédité avec, voilà, souvent quelques commentaires qui peuvent accompagner, mais peu importe, à la limite, même si on peut aussi télécharger, le texte est libre de droit, il est sur Gallica, on peut télécharger le manuscrit de 1825 Bria Savarin, et bon, c'est un peu difficile à lire à l'écran et dans la typologie de l'époque, mais voilà, c'est une œuvre absolument merveilleuse parce qu'il y a tout dedans. Enfin, c'est d'une prémonition absolument dingue, quoi. C'est 1825, c'était donc, on va bientôt fêter les deux siècles. Il y a tout. Il y a le plaisir social de manger, la physiologie du goût, mais évidemment, la science a évolué depuis, mais on y trouve les prémices de l'umami, de tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, cet ouvrage est juste dingue, quoi.
Merci beaucoup, Christophe.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill des Cotables. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.